Bon, continuons en compagnie de Michel Sardi, de Sardou, on commence bien, à explorer l'année 1947, plus exactement le 29 juin 1947. Ce jour-là, Michel, votre père, Fernand Sardou, se présentait à la grille du palais. Quel palais? Eh bien, je vous demande encore quelques minutes de patience, car avant de raconter l'histoire qui lui est arrivée ce jour-là, je voudrais d'abord présenter Fernand Sardou. Tout le monde sait qu'il fut un artiste de music hall et du cinéma, mais ce que l'on a peut-être oublié, c'est que votre grand-père, et même votre arrière-grand-père, était également du métier. Car chez les Sardou, c'est une manie de devenir célèbre. Ce qui n'est d'ailleurs pas commode, je suppose, car tout le monde sait qu'il est plus facile de se faire un nom qu'un prénom.
Dans les deux sens, d'ailleurs, les femmes aussi.
Oui.
Du côté de ma mère, c'était des danseuses de mère en fille.
On va en parler. J'ai retrouvé dans les documents radiophoniques d'Histoire d'un jour une interview de votre père où il parle précisément de la lignée.
Mon père était une vedette, parce que chez nous, ça dure longtemps, on sait, dans la famille. Il y a deux temps qu'on fait un peu la muse des gens. Il y a eu mon grand-père qui était mime. Il ne parlait pas, lui, il faisait comme Marceau. Il était menuisier la semaine, le samedi dimanche, il allait jouer la pantomime à Toulon. Un quartier célèbre, le quartier du cul de bœuf. Un quartier résidentiel.
Comme son nom l'indique.
Après, il y a eu mon père. Un comique excentrique, Nouvelle-Orléans. C'est tantan, 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 tantan. C'est tout très, très en l'air, très sautillant. Comique excentrique, du reste, c'est le créateur du genre. Puis alors, il y a eu moi. Oh là là, moi, j'ai tellement mis de l'argent de côté, j'ai plus rien devant moi, mais enfin, ça a été. Puis maintenant, Michel. Mais, et vous savez, les Sardous, c'est un peu comme Napoléon.
Il y a le chien aussi qui est un Sardou.
Il y a Ringo, oui. Eh oui, comme Napoléon, lui, il a mal fini, et nous, on n'en finit plus, oui.
Je suppose que votre père, vous avez déjà raconté tout ça, vous connaissez tout ça par cœur.
Oh, je connais, à la fois, je connais pas bien, parce que j'adore mon père, et c'est grâce à lui, si effectivement, c'est vrai que chez nous, c'est de père en fils, on se passe ça un petit peu comme on est boulanger de père en fils, ou d'autres maisons. Enfin, c'est ce que disait Jacques Martin ce matin, c'est très artisanal chez nous. Donc on nous transmet ça, c'est un petit peu une obligation. Mais d'un autre côté, on ne se confiait pas beaucoup de choses. On gardait chacun son métier. On était quand même toujours concurrents, avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'amour. Mais si vous voulez, on ne se donnait pas nos trucs. Chacun chez nous gardait ses...
Il ne vous a pas donné de trucs comme ça?
Non, il m'a fait une chose qui est capitale, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas barré la route. Il y a beaucoup de pères artistes, si vous voulez, qui disent à leur fils, qui conseillent à leur fils de faire un autre métier que celui-là, parce que c'est un métier aléatoire, dangereux, etc. Alors le mien, au contraire, m'a accueilli à bras ouverts en me disant, bien sûr, débute. Il m'a fait débuter, d'ailleurs, lui. Il ne m'a pas donné de conseils, mais il m'a mis en place. Après, il m'a laissé faire tout seul. Bien sûr qu'il surveillait ça d'un œil, de son œil, mais il ne venait pas s'en mêler. Il aimait ou il n'aimait pas, il ne me donnait pas de conseils, il ne me dirigeait pas.
Il était très fier de vous, je crois, quand même, hein.
Ben, j'étais très fier de lui, surtout.
Mais j'ai une petite anecdote, alors personnelle. Il y a quelques années, à la télévision, je l'ai rencontré au cours d'un reportage. Et au lieu de se présenter comme Fernand Sardou, il a dit, vous savez, je suis le père de Michel, le jeune qui monte. J'ai trouvé ça formidable. Savez-vous également que votre grand-mère, qui paraît-il fut d'ailleurs une ravissante personne, fut célèbre sous le nom de Rosalie Plantin?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle faisait, alors?
Je crois qu'elle était, je ne sais plus comment, diseuse, je crois, ou danseuse.
Diseuse chanteuse,
oui. Et je crois qu'elle se déshabillait un petit peu.
Ah bon?
Oui, enfin, comme on se déshabillait à l'époque, c'est-à-dire c'était pas comme maintenant, je veux dire, le nu intégral. On avait 14 froufrous, 35 choses. Et je crois qu'elle a eu une époque célèbre dans une huître, je crois. Elle a eu un moment célèbre, elle était dans une perrette, je crois, où il y avait Rému. Elle était enceinte de mon père et Rému disait toujours à mon grand-père, mais ne nous emmerde pas avec ta femme, elle n'est pas enceinte, c'est nerveux, elle accouchera pas, etc. Et finalement, un soir, elle devait sortir de l'huître, faire une apparition. Elle était très belle, c'est une grande femme, très belle femme. Et elle s'est pas levée de l'huître, elle était en train de, de faire le petit... Enfin, mon père.
Il y a une anecdote à propos de la naissance de votre père. Vous la connaissez, non? L'anecdote avec Rému.
Je ne sais pas.
Je vous la raconte.
Racontez-la moi.
Justement, elle attendait un enfant et quand elle était, je crois, au concert Mayol. On m'a dit qu'elle était
au concert Mayol.
Concert Mayol. Hein. Et il est probable que votre père, Fernand Sardou, le pur méridional, serait né comme vous à Paris, si, sans l'obstination de Rému, qui ne cessait de répéter en bougonnant, mais alors ce petit, il va naître à Paris, quelle catastrophe, vous la connaissez?
Je
peux la raconter quand même pour les auditeurs.
Bon.
Et il paraît qu'il demandait souvent à votre grand-père, comment va le futur petit parisien? À la longue excédée, votre grand-père prit une grande décision, son fils naîtrait à Marseille. Alors Madame Sardou prit le train, mais elle dut descendre précipitamment à Avignon pour mettre au monde donc un superbe bébé nommé Fernand Sardou.
Dans la salle n'est pas perdue.
Dans la salle n'est pas perdue, ça s'est passé.
Oui, ça s'est passé. Ils n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'au bout.
Bon, et puis les années ont passé, et votre père a fait comme votre grand-père et votre arrière-grand-père, il est monté sur les planches. J'ai retrouvé une autre interview de lui, où il raconte comment, en cette année 1947, qui nous occupe aujourd'hui, il a été engagé à l'Alhambra grâce à Édith Piaf.
Nous étions très amis, j'avais travaillé avec elle à l'époque héroïque, où on gagnait 17 francs chacun dans un petit cabaret de la rue Pigalle. Et j'avais dit à cette gosse, tu sais, si tu te soignes bien, tu deviendras une des plus grandes vedettes du monde. Alors, elle a réussi à devenir grande. Et quand, en revenant d'Amérique, elle m'a engagé dans un cabaret parisien, au Libertis, et elle m'a engagé pour être vedette américaine dans son programme dans l'Alhambra. Et c'est là que j'ai lancé cette fameuse chanson de Marcel Sicard, aujourd'hui peut-être ou alors demain. Tout le monde m'a dit, et je l'ai lancée, elle avait été déjà créée par un gars dans une revue qui s'appelait Gaston Ré. Et puis, on me fait voir des chansons, Paul Durand. Puis, m'en fait voir une, mais je dis, tu sais, elle est pas mal, ma fin.
Elle n'est pas terrible.
Il me dit, il y en a une là qui a déjà chanté Gaston Ré, si tu l'as. Oh. C'est pas grand chose, mais et il m'a joué ça. J'ai dit, tu appelles ça pas grand chose, toi ? Moi, je dis, je crois que c'est une grande chanson du midi. Et je l'ai chantée au cabaret le soir même. Le patron fait beau. Ma femme, toujours beau, tu sais. Et le soir, j'ai dit, tu vas voir le beau. Et en effet, je l'ai chanté deux fois en suivant. Je crois que c'est ça que tu allais dire, hein ?
Exactement.
Je l'ai chanté deux fois. C'est la seule chanson de ma vie que j'ai chanté deux fois dans la même soirée. C'est-à-dire, on m'a crié bis, mais on m'a pas dit bis une autre, on m'a dit la même.
Et ce soir-là, ça a donc été, pour Paris, les débuts.
Mais il est 1100 francs.
Oui, 1100 francs.
Elle m'a donné 1100 francs parce qu'elle était large des épaules. Et elle m'a dit à l'entraque, je m'occupais de toi. Et en effet, les impresarios sont venus. Et à partir de ce moment-là, j'ai gagné de 1100. Elle m'a fait passer 11 000 francs, ce qui était à ce moment-là une fortune.
Aujourd'hui peut-être une très jolie chanson de votre père, Michel Sardou.
Ah oui, ça le situe bien, parce que c'était un homme très doux, très, très calme. Et j'avais oublié qu'il avait une petite voix comme ça, aiguë, légère. C'est tout à fait lui. Je crois que c'est une chanson qui... Quand je la rechante sur scène, je la chante beaucoup moins bien que lui d'ailleurs, parce que j'essaye de reprendre ce qu'il faisait sur scène. Mmh. C'était très, très agréable de le voir chanter.
Il y a longtemps que vous ne l'aviez pas entendu, cette chanson ?
Oui. Assez longtemps.
Vous venez de dire, j'avais oublié la fin.
J'avais oublié la fin, oui, j'avais oublié, mon Dieu, qu'est-ce que c'est. J'avais oublié ça.
Je voudrais maintenant, Michel, que nous parlions de vos débuts. Pas les débuts de la vedette Michel Sardou, mais les vrais débuts, aux côtés de votre père. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, car vous étiez bien jeune, vous aviez 6 ans, je crois.
Mm-hmm.
Et...
Je m'en souviens, c'est très bien. Alors ça, très très bien.
C'est d'enregistrement ?
Oui, je m'en souviens. Je me rappelle de la salle d'enregistrement. Je ne sais plus où ça s'est passé. Je ne sais plus dans quel studio parisien c'était. Mais je me rappelle de l'endroit où c'était, parce que c'est l'époque où on enregistrait tout en direct. Il n'y avait pas de, comme on dit maintenant, de recording, si vous voulez. Il y avait les musiciens, il y avait un micro pour le chanteur, si vous voulez, un micro pour les musiciens, et c'est tout. C'était pris en direct. Et comme j'étais petit... Pour me faire parler à la fin de la chanson, mon père était obligé de me prendre dans ses bras et de me monter jusqu'au micro pour que je dise ma réplique. Ça, je me rappelle très très bien.
Donc, au moment où vous allez dire votre réplique, à la fin de ce disque que nous allons écouter,
c'est mon premier enregistrement.
Elle est venue, votre enregistrement. Vous étiez dans les bras de votre père.
Et oui, il a été obligé de me porter pour me mettre à la hauteur du micro.
Elle est venue.
C'est les deux petits, elle est partie et moi aussi.
Papa, et les petits ?
Les petits ? Mais les petits m'ont suivi. Allez, sous les enfants, venez, allez, sous. Allez, changeons d'air. Hein. Allez.
Voilà, elle est venue, première manifestation de Michel Sardou.
La voix a un peu changé, j'avais l'accent à l'époque.
Hein. L'accent et une toute petite voix.
Une toute petite voix, extraordinaire. C'est une bonne chanson, je suis ravi de la réécouter.
Parce que quand on réécoute des chansons comme ça, moi, c'est la seule chose que je regrette de ne pas pouvoir mettre dans l'histoire d'un jour, c'est... Que rappelle une chanson ? Généralement, ça rappelle des odeurs, ça rappelle des couleurs. Qu'est-ce que ça vous rappelle, cette chanson, justement ? Ça doit vous rappeler quelque chose, quand même.
Ça me rappelle mon père, surtout qu'il était un personnage formidable dans la vie. C'était un distrait, un rêveur, un charmant, qui était toujours un timide, qui sur scène était très à l'aise et dans la vie très à l'étroit, si vous voulez. Mmh. Et qui avait des rêves, il rêvait tout le temps, il écrivait beaucoup de choses, il écrivait des poésies, il écrivait des films, il écrivait des sketchs. J'ai toujours vu mon père avec un crayon à la main et une feuille de papier en train d'écrire des histoires, en train de se... Il refaisait sa vie continuellement, sa vie d'acteur comme sa vie d'homme, d'ailleurs. J'ai jamais considéré mon père, en plus, comme un père normal, comme je participais vraiment très près. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui. C'était un très bon acteur, très très grand acteur.
Bon, on reparle de lui dans quelques instants, après une page de publicité.